6h22, on lui offre un café, il répond à nos questions. Bonjour Alexandre Fabre.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit social à l'université d'Artois. Avec vous, on va essayer de comprendre comment fonctionne la sous-traitance dans notre pays. Plusieurs affaires la semaine dernière. La Poste et Air France, l'une est accusée par les syndicats, l'autre condamnée par la Cour de cassation pour avoir recours systématiquement à la sous-traitance. Et puis cas symptomatique aussi, on en a parlé ici sur France Inter, le Holiday Inn en banlieue parisienne. Les femmes de ménage de la société Emera sont en grève pour dénoncer les abus des contrats de 4-5 heures par jour, le non-règlement des heures supplémentaires, un seul jour de repos par semaine, etc. Alexandre Fabre, sur le phénomène en tant que tel, 82% des entreprises en France aujourd'hui pratiquent l'externalisation. Est-ce qu'il y a d'abord une différence entre sous-traitance et externalisation ?
La sous-traitance dont on parle et celle qui est au cœur des affaires dont vous parlez, c'est véritablement de l'externalisation. C'est-à-dire qu'une entreprise décide de confier une activité de service périphérique à son cœur de métier à une autre entreprise parce qu'elle ne veut plus le faire. Ça peut être du nettoyage, de la sécurité, de la maintenance, de l'informatique, des relations clients. Et c'est plutôt cela. C'est pas la sous-traitance au sens peut-être juridique du terme, la sous-traitance industrielle de marché qui correspond à une loi de 1975. C'est vraiment de l'externalisation.
C'est légal ?
Oui, c'est tout à fait possible. Ça passe par des contrats d'entreprise qui sont tout à fait conformes aux exigences légales. Mais la difficulté, c'est par rapport au droit du travail. C'est dans quelle mesure cette sous-traitance ne va pas rencontrer des infractions pénales comme le travail dissimulé, comme le prêt de main d'œuvre illicite, comme le délit de marchandage. Il y a une sorte de frontière qu'il ne faut pas dépasser, une ligne blanche qu'il ne faut pas dépasser.
Le délit de marchandage, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une infraction qui est assez proche de ce qu'est le prêt de main d'œuvre illicite. C'est peut-être un peu difficile à expliquer, mais c'est de la fourniture de main d'œuvre en somme. Une entreprise fournit de la main d'œuvre à une autre, à titre exclusif ou à titre accessoire d'une autre opération, et l'autre entreprise va profiter de la main d'œuvre sans être employeur, en quelque sorte. Et ça va avoir pour conséquence de priver les salariés du bénéfice d'une convention collective, de la convention collective de l'entreprise utilisatrice. Et si les conditions sont réunies, c'est un délit pénal, soit le délit de marchandage qui marche avec le prêt de main-d'œuvre illicite.
Est-ce que ça a toujours existé plus ou moins ? Qu'est-ce qui a changé peut-être ces dernières années ?
Le regard du législateur, sans doute. Je pense qu'il y a un phénomène d'accentuation de l'externalisation. Ça, c'est peut-être plus des statistiques qui pourraient le dire. Mais du point de vue du droit, ce qu'on observe, c'est que le législateur apprécie de moins en moins ce genre de pratique. Il tolère de moins en moins ce genre de pratique et les excès. On avait différents leviers pour agir contre ce phénomène. On avait la responsabilité pénale. On arrive après la bagarre, en quelque sorte, le mal est fait. Et puis, de plus en plus, le législateur a une démarche un peu plus proactive. Il essaye d'impliquer les donneurs d'ordre en mettant sur leur tête des obligations de vérification, de contrôle, d'injonction. Il y a une loi de mars 2017 qui est passée un peu inaperçue, qui a créé une obligation de vigilance sur la tête des groupes français ou des groupes internationaux. À l'égard des comportements qui pourraient avoir des risques sur les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité, l'environnement, par rapport aux comportements ou aux activités de leurs filiales, mais aussi des sous-traitants et des fournisseurs. Et donc je pense que le législateur essaye de plus en plus d'impliquer, de les mettre dans la boucle, d'arrêter qu'elles profitent d'une sorte d'indifférence que leur permet le contrat de sous-traitance. C'est pas moi, c'est l'autre.
Ça va dans le bon sens, ça, pour vous, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui portent plainte, de procédures en cours dont vous venez de parler, le législateur qui se saisit, est-ce que c'est une étape, est-ce que c'est suffisant ?
Alors ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est favorable à ce que la sous-traitance redevienne vertueuse, en quelque sorte, qu'elle ne soit pas synonyme d'abus. Les actions dont vous parliez tout à l'heure, des organisations syndicales, les condamnations, c'est, on pourrait dire, acquis depuis un certain nombre d'années. Il peut y avoir sous les feux de l'actualité telle ou telle affaire qui remonte. Mais ce qui est plus récent, c'est vraiment depuis quelques années une tendance du législateur à mettre des obligations plutôt d'ordre civil sur les donneurs d'ordre.
Donc là, on peut imaginer, par exemple, dans le cas de, on parlait de l'Holiday Inn à Clichy-la-Garenne, que la chaîne d'hôtels soit inquiétée à son tour et pas seulement la société.
Alors,
sous-traitante.
Je connais mal l'affaire et il faudrait regarder ça avec beaucoup plus de précaution, mais il faut imaginer ici que on a des pratiques qui sont probablement des pratiques un peu dures d'employeurs, qui mettent en œuvre des clauses de mobilité, qui mutent les gouvernantes, qui ont une politique sociale plus rude, peut-être parce qu'elles ont voulu gagner des parts de marché et qu'elles pressurisent les salaires à la baisse. Et ça, malheureusement, il y a probablement peu de choses à faire. En tout cas, le donneur d'ordre pourrait ne pas être inquiété. Il pourrait, s'il y avait du travail dissimulé. Par exemple, si on s'aperçoit que le prestataire dissimule des emplois, c'est-à-dire ne fait pas les déclarations auprès des URSSAF ou fait des sous-déclarations, là, il pourrait être concernés via le travail dissimulé.
Alors, si je comprends bien, à part s'il n'y a pas de travail dissimulé, mais s'ils n'ont qu'un jour de congé par semaine, avec des contrats sur quelques heures, avec des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, tout ça, c'est légal.
Alors, les heures supplémentaires, ça sera saisi par le travail dissimulé, parce que c'est de la dissimulation partielle. Et concernant un certain nombre d'autres thèmes, il faut bien avoir en tête qu'il y a une obligation d'injonction. C'est-à-dire que si l'inspecteur du travail, les autorités de contrôle, entrent dans la boucle, il peut informer le donneur d'ordre qu'il y a une infraction, pas au sens pénal du terme, une violation d'une règle. Il va informer le donneur d'ordre pour qu'il entre dans la danse et qu'il se tourne vers le prestataire en lui disant de se mettre en conformité et de manière à ce qu'il l'enjoigne à agir. Donc vous voyez, on essaye de faire en sorte, c'est un jeu à trois bandes en quelque sorte, où l'inspecteur du travail peut solliciter le donneur d'ordre pour qu'il fasse une pression sur le prestataire, et il y a un certain nombre de thèmes, dont la durée du travail ou les questions de santé et sécurité. Donc peut-être qu'ici, l'inspection du travail pourrait intervenir.
Alexandre Fabre, est-ce que c'est le prix à payer de la compétitivité, ou est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles lois ?
Ah, j'aurais bien du mal à répondre à cette question. Ce que je peux faire comme allusion, c'est peut-être une allusion à l'actualité la plus récente, à savoir les ordonnances. Est-ce que les ordonnances ne créent pas un contexte qui pourrait être favorable à un dumping social, par exemple ? C'est une question auquel beaucoup ont pensé. Et il est vrai que l'une des ordonnances a renvoyé un certain nombre de thèmes inédits à la négociation d'entreprise, comme des éléments de rémunération, par exemple. Pas les salaires minimums, mais les primes, par exemple. Si les primes qui sont prévues par la convention de branche peuvent être diminuées, voire supprimées au niveau de l'entreprise, ça donne du grain à moudre pour gagner des parts de compétitivité. Donc la législation est dans un double rôle, en quelque sorte dans un rôle un peu ambivalent, un jeu ambivalent. Elle peut favoriser le dumping social et en même temps limiter les abus, les excès de l'externalisation.
Alexandre Fabre, merci pour ce focus sur la sous-traitance, sujet aussi vaste que complexe. On devrait y voir un peu plus clair grâce à vous. Je rappelle que vous êtes professeur de droit social à l'université d'Artois. Merci encore. Bonne journée à vous.